et à tous, et bienvenue sur le podcast de l'Espace Santé Étudiant. Nous sommes Clara et Elisa, étudiantes relais santé bien-être. Aujourd'hui, dans cette édition spéciale, nous aborderons les inquiétudes des étudiants face à leur orientation, plus particulièrement au moment charnier de fin de cycle et d'arrivée dans la vie professionnelle. C'est une période de la vie pour être parfois difficile, où la santé mentale et le bien-être de certains sont mis à rude épreuve.
Inquiet de ne pas aimer le métier que vous avez choisi, de vous être trompé de voie, peur d'être jeté dans le grand bain sans personne pour vous accompagner, ou simplement angoissé à l'idée de passer d'un statut que vous avez toujours connu, celui d'étudiant, à celui de professionnel.
Pour tenter de répondre à ces questions, nous serons accompagnés de Yasmina Chaouchi, psychologue à l'Espace Santé Étudiant, et de John et Gabriel qui ont accepté de venir témoigner à propos des difficultés qu'ils ont pu rencontrer tout au long de leur parcours étudiant et professionnel.
Avant toute chose, nous tenons à préciser que l'objectif du jour est de permettre à nos auditeurs et auditrices de pouvoir se reconnaître dans certains témoignages et les rassurer en leur rappelant que ces préoccupations peuvent être normales, fréquentes et qu'elles ne sont pas une fatalité. Attention cependant, ce podcast aborde des sujets liés à la santé mentale qui peuvent déclencher des réactions émotionnelles chez certaines personnes. Si à tout moment, vous vous sentez mal à l'aise ou vous avez besoin de soutien, nous vous encourageons à prendre une pause et demander de l'aide à un proche ou à contacter une ressource de soutien appropriée. À noter que chaque parcours est différent, les témoignages d'aujourd'hui servent simplement d'exemple et non de généralité.
Bonjour à vous trois et merci d'avoir accepté de venir échanger avec nous et nos auditeurs. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter ?
Bonjour, je m'appelle John. Aujourd'hui, je suis ludothécaire et animateur en centre de loisirs, mais de formation, je suis programmeur dans le jeu vidéo.
Bonjour, je m'appelle Gabrielle. En ce moment, je travaille dans un coffee shop et torréfacteur. À la suite d'une licence et d'un master en géographie en coopération internationale, là, je me réoriente dans le tourisme durable. Donc, je suis en recherche d'alternance pour l'année prochaine.
Bonjour, donc je suis Yasmina Chaouchi, psychologue à l'Espace Santé Étudiant. Donc pour rappel, c'est un lieu ouvert à toutes et tous les étudiants avec des services gratuits en santé physique et psychique. Merci à vous pour l'invitation à participer à ce podcast sur une thématique complexe mais passionnante et j'espère que nos apports pourront éclairer nos auditorices. Juste pour débuter, je voulais aussi partager et vous dire que mon parcours également n'a pas forcément été linéaire. Il a été façonné par de multiples expériences. J'ai travaillé longtemps dans le secteur de l'orientation et de l'insertion professionnelle, d'où ma présence aujourd'hui, et aussi ensuite dans le secteur social, puis médico-social. Et je me suis ensuite intéressée au domaine de la psychotraumatologie. Donc j'ai réalisé ensuite des formations qui m'ont permis d'exercer dans ce domaine. Voilà, en tout cas, à tous les niveaux, on va dire que j'ai toujours accompagné les trajectoires des personnes. Mais je voulais témoigner de cela aussi pour dire que mon parcours non plus n'avait pas été tout à fait linéaire.
Bien, merci à tous de vous être présentés. Nous allons maintenant revenir sur ce passage tant redouté pour chaque lycéen, celui du post-bac. En effet, c'est un moment de transition parfois délicat entre le statut d'élève et celui de jeune adulte. Gabriel, comment est-ce que tu l'as vécu ?
Alors moi, après le bac, je suis partie faire une licence de géographie, aménagement et développement du territoire à Bordeaux. Pendant le lycée, en fait, moi, il y avait énormément de sujets d'orientation d'études qui m'intéressaient. Donc, j'essayais de viser un champ d'études assez large. Donc, je suis partie dans les sciences sociales parce que j'avais pas forcément de métier en tête exactement, enfin, qui me plaisait. Ou alors, en fait, je me voyais travailler plutôt en ONG, en fait, ou dans des structures un peu humanitaires. Sauf que l'unique trajectoire que je percevais à ce moment-là pour atteindre cet objectif, c'était de passer par des écoles, en fait, qui coûtaient beaucoup trop cher. Et donc, voilà, donc je suis partie à l'université en fac de géographie. Je regrette absolument pas mon choix. Et sur le moment, ces 3 années ont été vraiment passionnantes. Mais j'ai pas choisi, en fait, cette orientation-là avec un projet très défini derrière, quoi.
Et toi, de ton côté, John, est-ce que tu pourrais nous dire comment, toi, tu as vécu aussi cette période ?
Ma transition post-bac, elle a été relativement directe dans le sens où, depuis aussi loin que je me souvienne, je savais que je voulais faire de l'art, mais j'ai jamais été satisfait par ce que je produisais moi-même. Et donc, j'ai décidé en début de première que je ferais du jeu vidéo parce que si je peux pas être artiste moi-même, je peux aider des artistes à faire des jeux vidéo. Et je me suis spécialisé très tôt dans la programmation et le jeu vidéo et la transition directement post-bac s'est très bien passée.
Qu'en pensez-vous, Yasmina, de ce passage, justement ? Est-ce que vous avez des conseils pour l'aborder plus sereinement ?
Alors effectivement, déjà, on peut noter une évolution importante ces 15 dernières années dans le champ de l'orientation, à la fois qui peuvent être sociétales, parce qu'il y a eu la mise en place de nombreuses nouvelles réformes et dispositifs, hein, avec notamment Parcoursup, mon master, le système LMD aussi qui s'était mis en place il y a quelques années, et de manière générale, ces dernières années, un contexte national qui est anxiogène et instable. On peut citer notamment le Covid, ou la guerre en Ukraine, l'inflation. Donc il y a à la fois ces éléments-là qui mettent un peu dans une crainte de l'avenir et aussi des évolutions individuelles avec des problématiques que l'on retrouve qui sont de plus en plus psychosociales, bien sûr qui sont différentes selon la réalité de chacun, chacune, mais selon qu'on ait sa famille à proximité, un entourage, selon sa situation économique, géographique. Voilà, on va retrouver effectivement des problématiques multimodales. Donc déjà, il y a ça à noter dans un contexte global. Et puis, en tout cas pour ma part, je trouve l'injonction presque à faire des choix, l'injonction aussi au projet qu'il faut faire de plus en plus tôt. Maintenant, dès la troisième, avec les stages de découverte du monde professionnel. Ensuite, où s'inscrire avec le dispositif d'inscription en première année, puis après mon master. Enfin, voilà, donc ça ne s'arrête jamais. Il y a toujours des choix à faire alors qu'on ne se connaît pas non plus toujours très bien et que surtout on est en pleine construction identitaire. Et puis ajouter à cela parfois une pression familiale, sociétale qui vient s'ajouter et qui fait que c'est très compliqué aujourd'hui pour les jeunes de pouvoir choisir un post-bac, on va dire, puisque là c'est la question. Et puis aussi, c'est vrai que tout ça est bien ancré, je trouve, parce qu'on est souvent à se dire quand je serai grand, je serai, et on se définit souvent à travers un métier, finalement. On ne se dit pas je serai une personne qui aimera faire ça, je serai tel métier, et puis d'ailleurs on le retrouve nous-mêmes dans nos vies de tout un chacun, où ça va être sur qu'est-ce que tu fais dans la vie quand on se rencontre, alors qu'on pourrait se demander aussi ce qu'on aime faire au-delà de ce qu'on fait en termes d'activité. Donc voilà, c'est un peu le contexte global. J'ai envie de dire, pas trop de pression non plus. On peut se définir au-delà de son activité professionnelle. On est autre chose qu'un métier. Et que les études et ou le travail ne doit pas être, ou en tout cas n'est pas le seul pilier de notre équilibre de vie de manière plus générale. Donc des petits conseils, ça peut être quand même anticipé aussi, la connaissance des secteurs, ce que disait peut-être John, mieux appréhender les métiers, mieux appréhender les secteurs, ce que ça veut dire concrètement aussi que d'exercer ce métier, finalement, au-delà des représentations qu'on peut avoir, et puis ne pas hésiter à se faire accompagner si on ne sait pas quel outil peut nous aider, quel professionnel, essayer de solliciter des ressources qu'on peut avoir à disposition, mais ça, on y reviendra peut-être en fin de podcast pour des ressources plus précises si vous souhaitez.
Merci beaucoup pour vos réponses. Donc c'est aussi un moment charnier, l'arrivée dans les études supérieures, où on fait face à beaucoup d'inquiétudes, d'angoisses ou du moins du stress durant cette période. Ça peut être lié à des questionnements induits par le fait de devoir choisir une voie très tôt, comme on vient de l'aborder, à un âge où généralement on se connaît peu finalement. Il arrive donc qu'un besoin de réorientation ou d'arrêt des études se fasse sentir, et notamment, c'est ce que vous avez commencé à aborder au tout début de ce podcast. Gabriel, pour toi, quel moment a été décisif dans ta prise de conscience que dans les études que tu suivais, ça ne correspondait pas nécessairement en fait à ce que tu voulais faire ?
En fait, moi, les études que j'ai suivies, elles me plaisaient énormément. Moi, j'ai fait donc cette licence de géographie. Ensuite, je suis partie 6 mois en Amérique du Sud, un peu me confronter aussi au terrain de tout ce que j'avais appris pendant ma licence. Et aussi parce que je pense que, justement, mes études étaient passionnantes, mais elles étaient très théoriques. J'avais en tout cas cette envie ou ce besoin de me confronter à quelque chose d'un peu plus réel. Je suis partie dans cette optique-là. J'ai réalisé pas mal de volontariats. J'ai vécu des expériences très très enrichissante, puis je suis revenue bilingue espagnole entre autres. J'ai appris autant, voire plus que pendant mes études, mais sur d'autres plans. Donc j'ai fait cette césure-là, mais après dans ma tête, je pouvais pas m'arrêter à faire une licence, il fallait absolument que je continue vers autre chose. Et donc là j'ai poursuivi sur un master qui s'est réalisé entre Paris et la Colombie. Donc c'était un master de sciences sociales et de coopération internationale, mais centré sur le continent sud-américain, qui m'avait du coup beaucoup plu et j'avais envie d'approfondir ces thématiques-là. Et en fait, après, moi, il y a le Covid qui est arrivé à la fin de mes études, à la fin de mon master. Et donc, moi, en fait, c'est ça qui a nécessairement induit une rupture dans mes études. J'avais terminé les cours, mais je n'avais pas terminé le mémoire. J'ai pas pu retourner en Amérique du Sud et bien évidemment pour réaliser mon terrain de recherche. J'ai dû du coup faire évoluer ma thématique de mémoire. Et puis en fait c'était trop long, c'était trop, c'était aussi la période les périodes de confinement, donc j'étais tout le temps sur mon ordinateur. Moi ça avait un peu perdu tout son sens pour moi du coup les études à ce moment-là. Et donc j'ai arrêté en fait, c'est le Covid qui a fait rupture.
John, de ton côté, toi tu es allée au bout aussi de tes 3 années de ton école, mais tu n'as pas poursuivi dans cette filière vu que maintenant tu travailles dans une ludothèque. Du coup comment et quand est-ce que tu as compris finalement que tu voulais changer d'orientation ?
C'est en fait au moment où j'étais confronté à la réalité de qu'est-ce que c'est l'industrie du jeu vidéo. J'avais cette idée idyllique du monde du travail et du monde du jeu vidéo. Et sur une formation en 3 ans, après 1 an et demi, je savais que je ne voulais pas m'en servir toute ma vie. Donc 1 an et demi, j'ai pris cette décision-là que je ne serais pas programmeur. Et après 2 ans de formation, je commençais déjà à avoir des symptômes physiques. J'avais envie de vomir quand j'allais à l'école. Je faisais des crises d'angoisse très régulièrement. C'était juste plus possible. Donc j'ai poussé jusqu'au bout de mes 3 ans. J'ai eu, entre guillemets, la chance d'avoir le premier confinement à la fin de la 3e année, ce qui m'a permis de prendre de la distance avec l'école aussi. Et une fois arrivés les confinements, en fait, je me suis complètement immobilisé, complètement enfermé, en l'occurrence chez mes parents. J'ai tenté de faire un stage de fin d'études que j'ai arrêté à la seconde où on m'a appris qu'il n'était pas obligatoire à cause du Covid ou grâce au Covid. Et j'ai pas bougé de là pendant quelque chose comme 1 an et demi, 2 ans, où j'étais enfermé chez mes parents, je ne sortais pas ou uniquement pour voir un psychologue et c'est tout.
De votre côté, Yasmina, quel est votre avis sur toutes ces angoisses, ce stress, voire même pour certains, une complète remise en question des parcours que les étudiants vont suivre ? Et par exemple, si un étudiant venait vous consulter avec ce type d'inquiétude, qu'est-ce que vous lui diriez ou vers quoi vous l'inciterez en fait à se tourner pour réfléchir ?
Alors s'il arrive à me voir à l'espace santé étudiant, c'est que déjà il a poussé une bonne porte. Donc après effectivement, je ne vais pas avoir une réponse à donner généraliste parce qu'il n'y a pas la même réponse pour tous les étudiants ou les étudiantes. Bien sûr, déjà le premier travail ça va être d'accueillir et d'écouter le vécu intrinsèque de la personne qui vient me voir. Et de tenter de comprendre ensemble qu'est-ce que cette angoisse aussi elle vient signifier, parce que ça peut être par exemple la peur de l'échec, ça peut être un sentiment de vide, une confiance de soi impactée, devenir adulte entre guillemets, avec ce qu'il peut y avoir derrière aussi cette idée de devenir adulte, et puis faire lien avec son histoire, peut-être aussi dans la systémie plus générale de sa famille notamment, mais voilà, venir comprendre ce que finalement quand on fait des crises d'angoisse, ça vient aussi dire quelque chose de ce qui se passe pour nous à un instant T. Donc voilà, je ferai ça de manière générale, mais j'ai pas la réponse à dire on ferait plutôt telle chose ou telle technique. Mais voilà, déjà d'accueillir ça et d'être présente pour la personne. Et puis, je trouve que c'est aussi important d'arriver là à distinguer ce qui est de l'ordre du stress, de l'anxiété, de l'angoisse. Parce qu'en plus, dans le langage courant, aujourd'hui, on va facilement dire « c'est l'angoisse ». Mais bon, finalement, tout le monde ne connaît pas non plus l'angoisse. Par contre, beaucoup de gens connaissent le stress et l'anxiété. Donc, juste un petit point pour définir un petit peu crescendo qu'est-ce que peuvent être aussi ces ressentis. Le stress, ça va être plutôt une réponse physiologique, finalement, qui est déclenchée par l'organisme lorsqu'il va faire face un état de perturbation, et finalement tout le monde connaît des états de stress dans sa vie. L'anxiété, ça va être plutôt l'aspect d'anticiper en fait une menace future. Donc c'est une émotion assez aussi courante que plusieurs personnes connaissent et vivent. Et puis l'angoisse, c'est encore un peu, si on fait un peu par graduation, l'étape supérieure où en fait c'est comme l'anxiété, ça peut être associé à l'anticipation d'un danger ou à sa conséquence. C'est toujours accompagné, et d'ailleurs John le décrivait très bien, d'une réponse physique, donc souvent associée à un sentiment de constriction ou d'oppression, qui peut se matérialiser de plusieurs manières, mais ça va être souvent ces ressentis que l'on va percevoir, et ça peut aller effectivement jusqu'à l'attaque de panique, ce qu'on appelle communément la crise d'angoisse. Il faut simplement être vigilant et écouter un peu les signaux de son corps, voir si on est dans de l'anxiété, si ça commence à se manifester plutôt sous forme d'angoisse et effectivement, comme a pu le faire John, se rapprocher de professionnels si toutefois on sent que là, ça nous dépasse un peu plus et que ça s'installe aussi dans le temps. La durée, elle est importante à identifier. Et puis s'il y a d'autres troubles qui peuvent être associés, ce qu'on appelle parfois la comorbidité, qui peuvent être notamment des symptômes dépressifs qui commencent à s'installer, parfois des idées suicidaires qui peuvent être aussi présentes, le développement d'addiction. Voilà, donc là, le conseil, ça va être surtout de se faire aider, de ne pas rester seul finalement avec ces problématiques et se dire aussi que finalement, il y a beaucoup de personnes, d'étudiants et d'étudiantes qui traversent des périodes difficiles. On dit ça, ça veut tout dire et rien dire. Hein. C'est pas parce que d'autres en souffrent que... Mais bon, au moins se dire qu'effectivement, on n'est pas le seul à vivre ça ou la seule à vivre ça.
John, peut-être, tu as commencé à nous décrire ton mal-être. Mais comment est-ce que c'est arrivé, tous ces symptômes physiques, etc. Est-ce que tu as eu un déclencheur ou du moins, quelles ont été les étapes?
Sans rentrer dans le détail, parce que beaucoup de gens ont des crises d'angoisse, ça se vit de façon différente. Pour moi, c'était dès le matin, j'avais mal au ventre, j'allais vomir plusieurs fois dans la journée. Quand arrivait un moment de stress particulier, en plus de mon stress de base qui était déjà monstrueux, j'étais persuadé que j'allais mourir en fait. Voire par moments je voyais plus les choses qui étaient autour de moi, je ne ressentais qu'une chose et c'était le besoin d'être aidé et j'étais incapable de l'exprimer pendant plusieurs minutes, des fois une heure.
Yasmina peut-être ?
Oui, bah déjà merci de ce partage, mais effectivement quand on fait des crises d'angoisse on a réellement l'impression que l'on va mourir, vraiment, donc effectivement c'est très flippant. Parfois on a du mal à l'exprimer, donc moi en tout cas j'entends peut-être la notion de pouvoir l'exprimer à l'oral. Je ne sais pas si par l'écrit ça aurait été plus simple, mais il existe parfois des sites, des chats, notamment en ligne, qui peuvent être accessibles à tout moment, notamment SOS Amitié, qui a un chat qui est ouvert 7 jours sur 7 de 13h à 3h du matin, et aussi le fil santé jeune de 9h à 22h, où là c'est vraiment des chats où il y a des professionnels de santé, notamment, ou des bénévoles formés aux problématiques de santé mentale qui sont derrière l'écran et qui communiquent avec vous. Et parfois, c'est plus facile de le faire par l'écrit qu'à l'oral et d'aller exprimer effectivement son mal-être. Bon, je n'en cite que deux, il y en a d'autres, mais...
L'arrivée de tous ces symptômes jeunes que du coup tu nous décris, est-ce que tu as rapidement réussi à faire le lien avec l'environnement dans lequel tu étudiais, ou ce que tu étudiais, ou comme tu allais jusqu'au bout de tes 3 ans, est-ce que tu as poussé jusqu'au bout en te remettant en fait au final la faute sur toi, sans prendre en compte le fait que c'était l'environnement dans lequel tu étais qui te convenait pas?
J'étais pas conscient du tout que c'était cet environnement qui me mettait mal. Je suis allé voir un médecin en urgence qui m'a donné des anxiolytiques et c'est tout. Et ça a été à moi après de faire le pas d'aller voir une psychologue qui en gros m'a expliqué pourquoi j'avais l'impression de mourir tout le temps, ce qui est super agréable. Et qui m'a donné les clés pour après, dans l'espace de 2 ans, j'en ai quasiment plus des crises. Je me souviens pas de ma dernière, donc c'est que ça fait un bail que j'en ai pas eu.
Et du coup, John, qu'est-ce qui, dans la réalité en fait, du travail de l'école, t'a dégoûté, ou du moins, quels ont été les éléments qui ont fait que tu es passé donc, d'un post-bac plutôt agréable finalement à les crises d'angoisse que tu décrivais?
Quand je suis rentré dans cette école, donc le jeu vidéo c'était mon rêve, c'était un rêve, et j'avais pas franchement d'idée de ce que c'est dans la réalité, et en fait ça s'est concrétisé au moment où je suis arrivé face à des professeurs qui ont fait une carrière dans les jeux vidéo et qui m'ont raconté leur expérience de crunch, donc d'heure sup obligatoire, leur expérience de violence sur le travail qui sont systématiques dans cette industrie, et cette idée que il y a une telle quantité de jeux qui sort et qu'il y en a une infime fraction qui est considérée comme valant quelque chose sur le marché du jeu vidéo. Cette image que moi j'avais du jeu vidéo comme œuvre d'art et comme quelque chose de pur et de parfait, elle s'est effondrée très rapidement en fait. Et je me suis rendu compte que c'était travailler dans des situations qui étaient parfois abusives, parfois difficiles, et que j'avais absolument aucune envie de m'exposer à ça, mais ça m'avait l'air d'être inévitable. Je savais que si j'allais dans l'industrie du jeu vidéo, c'est ça qui allait m'arriver, point. Et je pense qu'il y a un biais de sélection vis-à-vis des témoignages que j'ai reçus, parce que mes professeurs ont tous choisi d'arrêter de travailler dans le jeu vidéo pour devenir professeur, donc c'est qu'il y a quand même quelque chose. C'était complètement normalisé d'être misérable au travail.
Yasmina, est-ce que tu voudrais réagir face au témoignage?
Ce qu'aborde John, c'est à la fois, il me semble, la désillusion de son rêve, en fait, hein, là, se confronter à la réalité du monde du travail. Et donc, pour faire lien avec ce qu'on disait précédemment, effectivement, d'où l'intérêt, parfois, si on le peut, d'anticiper à minima sur la connaissance du métier, du secteur, ce que ça veut dire. J'ai un autre exemple, mais une étudiante que j'avais accompagnée, c'était son rêve d'être enseignante parce qu'elle aimait bien les enfants. Et puis, finalement, quand elle s'est retrouvée après 4 4 ans d'études en stage devant une classe de 35 élèves qu'il fallait à la fois gérer. Il n'y avait pas que l'aspect transmission d'un savoir. Et elle s'est retrouvée effectivement en grande difficulté. Et là, pareil, quelque part, une désillusion du métier rêvé qui est quand même assez violent et difficile.
Moi, ce que j'avais toujours idéalisé, justement, c'était un travail d'équipe orienté dans le service à l'autre et puis toujours cet aspect du travail à l'étranger aussi, des cultures étrangères qui me plaisaient beaucoup. Sauf qu'en fait, moi, mes études, le truc, c'est qu'elles ont été finalement très théoriques et qu'en fait, j'ai pas eu cette expérience pro ou ce stage qui m'a permis d'intégrer en fait le monde du travail et ou d'assimiler en fait les compétences qui sont requises pour travailler dans ce genre d'organisme. Enfin, s'il n'y avait pas eu le Covid, j'aurais fait un stage. Donc déjà, peut-être que l'histoire aurait été différente. Là, déjà, ça a annulé mes stages. Et puis ensuite, s'en est suivi toute une succession de désillusions, justement. J'ai essayé de rebondir sur un service civique dans la solidarité internationale sur Bordeaux, toujours en période de confinement et de Covid. Donc deuxième désillusion, parce qu'en fait, finalement, par rapport à ce que j'étais censée faire, on me demande de faire un travail qui est un travail de communication. Donc je me retrouve devant un ordinateur, encore, ce que je fuyais à tout prix. Maintenant, quand j'y repense avec le recul, peut-être que j'aurais dû moins faire, entre guillemets, la fine bouche et peut-être me rendre compte que la communication, par exemple, c'est une compétence qui sert dans tout type de métier, notamment le travail associatif. Par exemple, aujourd'hui, je le vois un peu différemment, mais en tout cas, à l'époque, ça m'a frustrée. Puis en plus, il y avait donc, encore une fois, le confinement, donc j'étais derrière l'ordi chez moi à faire tout ça, plus essayer de rédiger la fin d'un mémoire que finalement j'ai abandonné. Enfin, bon, du coup, c'était... Il y a une grosse perte de sens à ce moment-là. Donc je me suis dit, bon, j'ai un peu la sensation de ne pas avoir terminé justement ces études parce que je ne sais pas dans quoi me rediriger dans le travail. Et je ne me sentais pas du tout légitime en fait à postuler à quoi que ce soit finalement à ce moment-là. Donc je me suis dit, réoriente-toi vers une formation professionnalisante dans le milieu qui t'intéresse, donc la solidarité internationale. Je finis par trouver quelque chose qui est à Bordeaux et qui est abordable aussi parce que c'était... La seule formation qui existait, qui était publique, en fait. Donc, je monte un dossier qui, selon moi, était plutôt béton. Et en fait, je ne suis pas acceptée. C'était la première fois que, aussi, je me confrontais à un refus comme ça. Donc, voilà. Et là, à partir de là, j'en pouvais plus, clairement. Après, moi, j'ai toujours une... Vu qu'on parle de santé mentale, j'ai toujours une santé mentale assez fluctuante, surtout dans ma jeunesse. Mais là, à ce moment-là, en fait, j'étais surtout... démunie parce que j'avais l'impression de me prendre mur sur mur, en fait. Ça, plus la sensation d'être confinée, d'être enfermée. En fait, j'avais la sensation de bloquer dans ma vie, mais même physiquement, on était bloqués. Et là, après, ça, c'est ma personnalité, c'est moi qui, en fonction justement de... Je me suis réorientée vers ce que j'aime et ce qui me ressource, ce qui me fait du bien à ce moment-là. Et du coup, je suis partie marcher. J'avais besoin, en fait, là, d'évacuer, même physiquement, en fait, toutes ces émotions contrariées que j'avais accumulées. Donc là, je suis partie marcher 2 mois sur les... C'était pas prévu, ça devait être quelques jours. Et puis, en fait, j'ai vu que ça me faisait tellement de bien que je suis partie 2 mois sur le chemin de Compostelle. Et ça, ça a été, par exemple, une des expériences les plus marquantes et les plus enrichissantes. Enfin, ça m'a énormément apporté, en fait, et notamment aussi en connaissance de soi. Enfin, comme les voyages que j'avais faits avant, plutôt à l'étranger, notamment en Amérique du Sud. Mais là, ça m'a énormément apporté. À ce retour de Compostelle, là, je me suis dit, bon, dans l'instant T, t'as juste besoin d'une stabilité financière et puis de te remettre dans un rythme. Donc, c'est pas grave si tu trouves pas tout de suite ce que tu veux faire exactement. J'avais un ami qui travaillait donc dans un restaurant en Cap-Ferré et qui m'avait toujours proposé de venir y travailler. Je me suis dit, tu vas te mettre au vert, tu vas être au bord de l'eau, à travailler, à gagner de l'argent. Fais ça et puis tu verras plus tard, quoi. Et puis du coup, là, je suis rentrée dans cette phase de vie ensuite où j'ai pas mal travaillé du coup en hôtellerie, en restauration... Ça n'est toujours pas quelque chose qui est vocationnel, on va dire, chez moi. Mais en tout cas, ça m'a appris énormément de choses. La gestion d'une clientèle, la gestion du temps, organiser son travail, travailler en équipe aussi, travailler en autonomie, prendre confiance en soi. Enfin, en fait, ça m'a apporté plein de choses. Et puis, le simple fait aussi d'être dans cette stabilité financière aussi, ça fait du bien parce qu'on peut, malgré tout, dédier du coup son temps libre ou son argent... aussi à côté à des activités qu'on aime, enfin on peut développer aussi des choses à côté. J'ai toujours adoré la photo, j'ai pu m'acheter un appareil photo, l'appareil photo que je voulais absolument, et du coup développer cette activité-là. Ça m'a permis aussi de vivre dans un cadre idyllique qui est le Cap Ferré, et de me rendre compte aussi que vivre en ville, c'était plus tellement ce qui me faisait envie. Enfin bon, tout un tas de choses finalement qui font que je me sens pas... aujourd'hui dans la vie toujours que je m'imagine rêver, mais en tout cas j'ai l'impression que petit à petit je m'en approche. Donc je travaille dans un coffee shop. L'ambiance y est très chouette. Et puis le cadre de travail et l'aspect de torréfaction artisanat me plaît bien. Et à côté de ça, je suis dans la recherche d'une alternance, puisque je me suis inscrite, j'ai décidé de m'inscrire juste pour une année dans une école qui s'appelle Atlas Institute, enfin une école de tourisme, mais qui est orientée sur le tourisme durable, tourisme de nature. Bah, c'est un step de plus, un pas de plus vers une orientation qui me plaît.
Merci beaucoup, Gabrielle, pour ton témoignage, parce que je pense que ça va rassurer aussi beaucoup d'étudiants dans leur quête en fait, de soi et de se dire que bah, finalement, ça n'arrive pas comme ça, mais c'est tout un chemin et ça vient tout au long de la vie. Yasmina, est-ce que tu voudrais réagir ?
Oui, volontiers. En fait, effectivement, c'est un chemin. j'aime bien aussi, je ne sais plus le dicton, mais qui dit que, en fait, finalement, c'est plutôt, plus que la destination, c'est le chemin qui compte. Donc, ça, c'est important de le garder en tête, finalement. De réintroduire aussi la notion de plaisir, d'envie dans ce qu'on fait, plutôt que toujours d'être dans le « il faut, il faut, il faut », mais se dire aussi, en fait, là, dans quoi je prends du plaisir. Dans quoi je pourrais peut-être m'épanouir, qu'est-ce qui fait sens pour moi, qu'est-ce qui m'intéresse ou ce qui ne m'intéresse pas aussi. C'est intéressant des fois de partir de ce qui ne nous intéresse pas. En tout cas, la connaissance de soi, elle est vraiment évolutive. C'est-à-dire que, selon moi, elle se fait par l'approche expérientielle, c'est-à-dire développer des expériences de vie qui font qu'on va apprendre aussi à se connaître, qu'on va se poser des questions, tout comme quand on rencontre quelqu'un, finalement, on lui pose des questions pour le connaître. C'est pas parce qu'on a rencontré une personne, on lui a pas encore parlé, on ne sait pas qui elle est, bah, c'est un peu pareil pour soi, c'est-à-dire se poser des questions à soi-même pour se dire, bon, mais en fait, moi, qu'est-ce qui fait sens pour moi, dans quoi je me vois évoluer. Gabriel, justement, tu évoquais le cadre de travail, l'environnement de travail, ça me semble aussi très important parfois de se dire, bon, un métier en soi, oui, c'est important, bien entendu, mais parfois le lieu ou le contexte dans lequel on l'exerce prévaut sur le métier en lui-même. Et puis se dire aussi que bah, parfois la remise en question, c'est positif, parce que c'est toujours un peu dévalorisé. À l'école, d'ailleurs, on fait des fautes, des erreurs, alors que bon, finalement, parfois, c'est juste des apprentissages. Hein. Faut aussi se rappeler dans le développement personnel, même si on s'en souvient pas tout le temps, mais que quand on est enfant, on est tout le temps en plein développement et qu'on apprend de, justement, des échecs, enfin des essais finalement que l'on fait, hein. Rappelez-vous le vélo, on n'a pas réussi à faire du vélo sur deux roues en une fraction de seconde, c'est tout bête à dire, mais finalement ça montre aussi que c'est par des essais qu'on arrive à faire des choses. Ça c'est important, et puis je voulais aussi souligner un petit peu pour démystifier le monde du travail que les recruteurs aujourd'hui, ils recherchent plutôt des profils plus que des techniciens. Alors bien sûr, je parle pour les métiers qui n'ont pas nécessité d'avoir un diplôme particulier. Chirurgien, on est d'accord, hein, on ne va pas rechercher un profil de chirurgien, on va chercher quand même quelqu'un qui sait exercer ce métier. Mais pour tout un tas d'autres métiers, finalement, c'est plutôt des compétences douces, hein, ce qu'on appelle les compétences douces aujourd'hui, qui vont permettre aux recruteurs d'être intéressés par vos profils. Donc l'agilité organisationnelle, la coopération, la capacité d'apprendre, l'adaptabilité, finalement. Gabriel, tu parlais aussi de la communication, des langues, l'espagnol, tout ça, ce sont aussi des compétences transférables et qui sont valorisées. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va rechercher finalement, vraiment. Hein, les recruteurs sont de plus en plus sur ces compétences douces. Et aussi se dire que finalement, nos métiers, ils évoluent. On évoluera certainement de métier dans nos parcours, soit de lieu, de domaine d'activité. C'est contrairement un peu à il y a 50 ans, finalement, où la plupart du temps, on exerçait le même métier dans la même structure. C'est un peu caricatural, mais globalement, c'est un petit peu ça qui se passait quand même. Et qu'il existe aussi de la formation tout au long de la vie, aujourd'hui. Donc on peut apprendre même après, on peut continuer à apprendre. Et puis des fois, on a aussi des événements de vie, que ce soit personnel, de changement de lieu, pour, je ne sais pas, moi, suivre un conjoint, réaliser un rêve, qui font qu'à un moment donné, dans son parcours, on change de métier aussi et on pourra peut-être se reposer des questions dans 20 ans. C'est pas pour vous faire peur, mais en fait, c'est juste pour vous dire que on apprend à se connaître tout au long de son parcours et il évolue. Donc, en tout cas, moi, ce que je veux dire, c'est essayons de relativiser. Un choix, notamment d'orientation, ne va pas colorer toute votre vie, mais va plutôt en teinter une partie, voilà, si j'ose dire.
Et justement, en parlant de choix d'orientation et surtout du cadre de travail, c'est un des déclencheurs, John, qui t'a fait décider en fait d'arrêter la voie dans laquelle t'étais. Et comment est-ce que tu t'es retrouvé aujourd'hui à être animateur et ludothécaire ?
Yasmina disait tout à l'heure que effectivement on peut savoir ce qu'on veut, on peut aussi surtout savoir ce qu'on veut pas dans cette période. Moi je savais juste ce que je voulais pas, je voulais pas être dans le monde du jeu vidéo, et pour moi je le savais pas à ce moment là mais le gros choix que j'ai fait, ça a été de m'arracher de chez mes parents. En fait, je ne pouvais plus vivre là-bas. Et donc j'ai pris la première opportunité qui se présentait, j'ai fait un service civique ici à Bordeaux, à l'université de Bordeaux, en animation, par pur hasard. Bah déjà ça m'a permis d'avoir un espace qui était uniquement le mien, ça m'a permis d'avoir, sans m'en rendre compte, de l'expérience en animation, et ça m'a permis de mettre un pied aussi dans les associations de l'université de Bordeaux, et notamment une association qui fait du jeu de société et du jeu de rôle, dans laquelle je me suis beaucoup engagé et que je suis allé jusqu'à ponctuellement diriger. Et c'est un moment où j'ai eu ce luxe de pouvoir prendre mon temps, parce que j'ai fait un contrat engagement jeune avec la mission locale qui m'a soutenu pendant 9 mois financièrement et dans ma recherche d'emploi. Et j'ai fini, dans le cadre de ce contrat engagement jeune, à postuler un peu au hasard dans une ludothèque une fois. Et en fait, c'est mon recruteur qui m'a fait me rendre compte que bah si, en fait, j'ai les compétences. J'ai déjà géré une ludothèque, c'est une ludothèque associative, mais j'avais déjà géré une ludothèque. Et à partir de là, j'avais un pied dans le métier et je me suis rendu compte que c'est un pur plaisir de travailler en ludothèque. J'ai eu la chance, il y a quelques mois, de travailler dans une structure qui est à la fois ludothèque et centre de loisirs, et ça m'a permis de remettre les pieds dans l'animation et de me rendre compte que, pareil, j'adore travailler avec des enfants et que c'est quelque chose que je veux continuer après. Et ça m'a permis de me former. Je viens de valider mon BAFA, là.
Yasmina, est-ce que tu voudrais réagir par rapport à ce qu'a dit John ?
Oui, je veux bien réagir effectivement sur ce que John et Gabriel viennent de dire, parce qu'il y a deux éléments qui me paraissent, qui sont concomitants dans vos témoignages. C'est le moment aussi où en fait vous reprenez les rênes de votre vie. C'est-à-dire qu'à la fois, là je suis en blocage, je me mets en action et je pars à Compostelle. Et là, il se passe ce qui se passe. En tout cas, je chemine aussi dans ma tête, finalement. De la même manière, John, tu évoques le fait de t'arracher de chez tes parents. Donc là, c'est pareil, je me casse, je me mets en action. Et finalement, j'ai un espace que je retrouve comme étant le mien. Et c'est aussi un espace psychique, selon moi, comme étant le sien. Donc, je voulais mettre en exergue ces deux éléments-là que je viens de noter dans vos témoignages, parce que ça permet vraiment de venir illustrer qu'effectivement, comme je le disais, l'approche expérientielle par l'expérience, mais aussi par l'action, en fait. Se mettre en mouvement, se mettre en action, reprendre le pouvoir de ses choix.
Quel est votre regard actuel sur les dernières années? Comment est-ce que vous vous sentez là, aujourd'hui, à l'instant T? Et qu'est-ce qui vous a aidé, vous, et qui pourrait aussi aider certaines personnes qui passent par tous ces questionnements, finalement?
Ça va faire 7 ans maintenant que j'ai passé mon bac, bientôt, qui a été définitivement chaotique. Il y a eu des bas qui ont été très très bas, aussi bien professionnellement, où je suis resté au chômage pendant 2 ans, ou en tout cas sans activité pendant 2 ans, et mentalement, je suis tombé dans une dépression qui était très profonde, j'allais vraiment vraiment pas bien. Mais au final, j'ai appris tellement de choses. Sans m'en rendre compte, j'ai appris à gérer mes émotions, j'ai appris à gérer mes angoisses, j'ai appris à travailler en équipe, j'ai appris à chercher du travail, ce qui est vachement dur. J'ai appris énormément de choses et je pense que j'en suis pas conscient de la moitié, et j'ai hâte de voir ce qui vient après. Je suis conscient que j'ai pas fini mon parcours chaotique, il y a encore sans doute plein de choses qui vont changer, mais au moins maintenant j'ai une direction. Et donc tu demandais des conseils. Je pense que mon conseil, ça va être de prendre les rênes. Je sais que c'est tellement, tellement difficile de sortir de cette zone mentale et professionnelle. Mais sortir de chez soi, traverser la rue et aller demander de l'aide dans l'un ou l'autre organisme, que ce soit la mission locale, que ce soit votre université, que ce soit Pôle emploi. Il y a des associations locales aussi. Il y a toujours un moyen de se faire aider et il y a toujours des gens qui ont envie de nous aider. Et je pense que ce serait dommage de le gâcher.
Et juste, je me permets de rebondir, tu parlais de tout ce que tu avais appris finalement pendant ces années. Et c'est vrai que c'est vraiment important de savoir valoriser ses compétences à chaque fois, en fait, finalement, qu'on a une interaction, que ce soit professionnelle ou pas.
Absolument.
Je pense que pour revenir sur cette notion de chaos, en fait, je pense que finalement la vie, enfin le vivant est éminemment chaotique et que peut-être qu'on a vécu aussi ces derniers temps dans une société ou dans des époques en fait où on essayait absolument de nous envoyer sur des rails, sur quelque chose qui était plus très vivant, justement, quelque chose de, tu fais des études, ensuite tu sors des études, tu trouves un travail, c'est ta vie, il y avait aussi cette notion d'avoir des enfants, d'avoir une maison, etc., etc. Et au final, c'était très figé. Peut-être qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de raté, c'est juste des expériences en fait, et que dans tous les cas, on en ressort grandi, plus conscient de qui on est, de ce qu'on veut ou de ce qu'on ne veut pas, et que finalement, c'est peut-être ça qui a valorisé. J'ai fait aussi tout un travail sur moi que je continue en fait, hein, et j'ai pris plein de biais. Enfin voilà, là j'ai évoqué Compostelle ou mes voyages. J'ai beaucoup voyagé toute seule. Et moi, c'est ce qui m'a permis beaucoup de me confronter à moi-même. Et en fait, ça fait peur. Quand on voyage seul, on est livré à nous-mêmes. On arrive dans un pays où il n'y a peut-être pas la même langue. On n'a pas de repères, on ne connaît personne, etc., etc. Donc il y a un côté, y a une inconnue à affronter qui peut être intimidante et effrayante. Mon entourage pense toujours que moi, je n'ai pas ressenti cette peur-là et que voilà, je suis une dingo et que j'ai peur de rien, je ne sais pas quoi. Mais en fait, pas du tout. Enfin, au contraire, ça me faisait très peur. Mais en fait... quand on affronte cette peur-là, on va aussi puiser dans ses ressources et c'est là qu'on découvre aussi des forces en nous dont on n'avait pas forcément conscience. On rebondit toujours sur autre chose et ces difficultés qu'on a éprouvées ou qu'on peut encore éprouver, c'est ça qui nous a mis sur le chemin de, voilà, par exemple, toi, la mission locale, moi, mon expérience à Compostelle, etc., etc. Et en fait, c'est nos difficultés qui nous poussent à aller dans nos retranchements et ensuite à voir plus grand ou à voir les choses différemment. Et en fait, je pense que la vie, c'est juste une succession d'expériences. Ça nous apprend forcément des choses et on en ressort forcément grandi, quoi.
Ce qu'on peut souligner, en tout cas, de vos deux témoignages, c'est que c'est vraiment important, finalement, de prendre son temps quand on en a l'occasion pour vraiment se trouver et de ne pas réagir dans l'immédiat, en tout cas. Est-ce que, Yasmina, tu aurais un dernier conseil à nous dire ?
S'accorder du temps, effectivement, pour pouvoir mettre en réflexion. Et puis souvent, on a tendance à être soit dans l'avant, donc du type « j'étais bon élève avant, etc., ça se passait bien », ou dans le futur, peut-être qu'il faudra que je sois un adulte avec une maison, un jardin et je ne sais quoi. Alors que du coup, on a peu tendance finalement à vivre le moment présent, à essayer de se dire « bon là, aujourd'hui, maintenant, quel est mon besoin ? Qu'est-ce qui pourrait me faire du bien ?» Et donc, je trouve que c'est important aussi de réintroduire cette notion, même s'il faut anticiper, je disais qu'il fallait anticiper tout à l'heure certaines choses, mais aussi d'avoir la capacité à vivre le moment présent, de s'ancrer là-dedans et effectivement peut-être aussi par des exercices, que ce soit parfois de méditation, de cohérence cardiaque, des petits outils comme ça qui au quotidien permettent aussi de se poser un petit peu et d'arrêter les ruminations ou l'intellectualisation qui est parfois très présente.
Quels sont les conseils et les ressources auxquels on peut accéder finalement pour aller mieux ?
Alors ils sont nombreux, on ne pourra peut-être pas tous les citer maintenant, mais en tout cas ne pas hésiter déjà à se rendre dans des structures qui sont là pour vous aider, comme effectivement l'espace santé étudiant, on en a parlé, que ce soit pour des difficultés financières, puisqu'il y a aussi une assistante sociale, mais aussi de santé physique et ou psychique. Également le service FAS que j'aimerais citer pour les personnes à besoins spécifiques, donc ce soit les artistes, les personnes en situation de handicap, les sportifs de haut niveau, mais également sur les aspects plutôt d'orientation ou d'insertion, l'espace orientation carrière de l'université qui propose vraiment beaucoup de choses, des modules de réorientation de 40 heures si vous êtes vraiment en rupture, des conseils individuels avec ou sans rendez-vous, des ateliers, des webinaires, enfin énormément de choses. Il y a beaucoup de professionnels très aguerris, donc ne pas hésiter. Et pour clôturer, il y a aussi de la documentation en ligne, les fiches CIDJ, ONICEP, voilà, tout type d'expérience dont on a parlé, que ce soit de césure, de bénévolat, de service civique ou autre. Enfin voilà, tout un tas de ressources, l'annuaire des anciens, notamment dans les universités, les enquêtes d'insertion qui permettent de mieux aussi se rendre compte de la réalité des métiers, de l'insertion professionnelle qui existe réellement à l'issue des études. Enfin voilà, plein d'outils. Mais n'hésitez pas à aller dans les trois endroits que je viens de citer, que ce soit l'espace santé étudiant, phase ou l'espace orientation carrière, qui pourront reprendre tout ça avec vous. Pas de panique, mettez-vous en mouvement, croyez en vous, soyez bienveillants avec vous, parce que c'est quand même aussi la base. Et ne restez pas seul. Voilà, un petit peu pour clôturer. Je me permets juste une petite citation, parce que j'aime bien cette citation de Nelson Mandela qui dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ».
Merci à tous d'être venus et d'avoir répondu à nos questions. On espère avoir pu aider certains de nos internautes. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, des ressources sont disponibles autour de vous et que vos inquiétudes ne sont pas une fatalité. En cas de mal-être, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un professionnel de santé en prenant rendez-vous à l'espace santé étudiant ou avec votre médecin traitant. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de l'espace santé étudiant www.santé-étudiant-bdx.fr ou sur Instagram @espace-santé-étudiant-bdx. Encore merci à tous et on vous souhaite une bonne journée et on vous dit à bientôt.